1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tour en direct sur Canal B. On est ensemble du lundi au vendredi de 16h30 à 17h40. Une émission qui aujourd'hui, comme d'habitude, vous parlera de ces disques découvertes pour les radios de la Ferrarock cette semaine, c'est-à-dire les albums de Eggs et puis de Bon Enfant. On évoquera aussi un concert pour Dépichicaille en partenariat avec Les Tombées de la Nuit et le Conservatoire de Rennes, la soirée Dépichicaille numéro 66. Dimanche 24 novembre avec Ed Dewey et Kotz. Et puis on recevra tout à l'heure Arthur Noziciel, directeur du TNB, comédien, metteur en scène. C'est Ronan qui l'invite pour nous parler et pour parler avec Arthur Noziciel du festival TNB à Rennes du 13 au 23 novembre. Et puis à part ça, quelques nouveautés brûlantes, nouveau single pour Compromat, Baby Berserk aussi, et puis notre disque d'or de la semaine, la réédition de l'album J'ai rien compris mais je suis d'accord de Non-Stop, c'était sorti en 2009 et c'est réédité par ici. D'ailleurs, on retrouvera aussi Sois-y Global, puisque c'est mercredi, pour Allez on lit, numéro 63. Elle nous parlera de Grand, d'un album jeunesse d'Aurore Petit, paru aux éditions Les Fourmis Rouges. On débute directement avec Rebecca Warrior et Vitalik, c'est eux qui forment Compromat. Leur premier album, sorti en 2019, était plutôt bien reçu, sombre et percutant. En 2025, ils donneront un nouvel album Praying autour des rites funéraires, de la prière païenne ou non, et puis des plaisirs de la chair, de la danse, de l'extase, une invocation divine à travers la musique. On l'entend bien manifester dans ce titre Lift Me Up. Nouveauté, ça sort ce jeudi pour Warrior Records, le propre label de Rebecca Warrior. Bonne émission.
Je t'envoie l'ascenseur, je veux gravir du sommet avec toi, tu le sais.
journey, Helen. Welcome to the moon.
Compromat tout à l'heure pour débuter le grand tout, extrait d'un album qui arrivera en 2025. Là, le single sort ce jeudi. Et puis à l'instant, les Néerlandais Baby Berserk, leur nouvel album sur le label suisse Les Disques Bongo Joe. Petite embardée sur le dance floor avec ces deux titres-là, avec ce morceau Creeps. Ils nous mettent en garde, les Baby Berserk, contre les relous de tout poil. Et je pense qu'ils sont aussi présents, hein, ces relous-là, sur le morceau chanson qui va suivre, Garden Party, extrait de l'album J'ai rien compris mais je suis d'accord. Deuxième album qui était sorti en 2009 pour Non Stop. Fredo Roman qui à Toulouse donnait jeté un énorme pavé dans la mare rap hip hop de l'époque et qui a gardé cette trace, hein, je pense, de cet album-ci. Non Stop, on l'écoute maintenant avec Garden Party. C'est donc le disque d'or de la semaine dans Le Grand Tout.
Et tout ce sang qui n'aurait pas coulé si seulement on avait pu discuter, et toutes ces vies qu'on aurait épargnées si seulement on avait pu s'arranger. Quand ils se taisent, c'est qu'ils vont dire quelque chose. Ils savent que parler veut dire toujours une citation dans la manche. Ils savent tout et rien d'autre. Ils voudraient toujours jouer sur les deux tableaux. Ils ont trop servi leur ego en laissant croire que derrière eux il y avait quelque chose d'autre, alors que derrière il y avait juste eux, toujours plus beaux. Des vainqueurs qui gagnent ce que les autres perdent. Ça m'arrache les yeux tellement que c'est beau. C'est pas nécessaire d'être idiot pour vivre ici, mais ça facilite les choses. Quand ils auront tous essayé et que rien n'aura réussi, ils nous apprendront la dignité dans la défaite, dans le sens des arêtes. La bonne conscience qui civilise l'intelligence, le bon sens au milieu du chaos. Ils nous feront délateurs pour nous rendre innocents, prisonniers casaniers, voisins tuteurs, témoins relais. Quand ils dorment, on vit leur cauchemar. Ils ont rien contre les excuses, ils sont même prêts à recevoir. Sourds, ils ont ignoré un monde qui hurle. Demain, ils expliqueront pourquoi ce qu'ils ont prévu hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Demain, ils expliqueront pourquoi ce qu'ils ont prévu hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Tout ce sang, il en a fallu beaucoup, de la patience, du dévouement, pour qu'il y en ait autant et qu'il arrive jusqu'à vous. Et tout ce sang qui n'aurait pas coulé si seulement on avait pu discuter, et toutes ces vies qu'on aurait épargnées si seulement on avait pu s'arranger.
La nuit.
C'était un extrait de l'album Pas un bruit pour Bacchante, très bon album sorti sur le label Figure Libre. Amélie Grosselin, Claire Groupalo, Astrid Radig et Faustine Seilman qui nous entraînent dans des tourbillons tour à tour électriques, acoustiques, bruitistes ou mélodiques. Vraiment un album à écouter d'urgence, un des plus beaux albums sans doute de l'automne. On poursuit le grand tout avant de retrouver Ronan et puis notre invité du jour, Arthur Nosiciel, pour parler du festival TNB qui commence tout juste ce mercredi 13 novembre et jusqu'au 23 à Rennes. Je vous propose maintenant Allez on lit numéro 63 avec, comme d'habitude le mercredi, Sois-y Globaille et une chronique bouquin.
Allez on lit les chroniques littérature jeunesse par Sois-y Globaille sur Canal B.
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait dans le grand tout, en tout cas le mercredi. Sois-y Globaille nous parle bouquin. Bonjour Sois-y.
Bonjour.
Et aujourd'hui, il nous parle littérature jeunesse, petite jeunesse, même toute petite jeunesse, peut-être, je sais pas, mais tout le monde peut le lire et l'apprécier, puisque toi tu l'apprécies autant que ton petit-fils, il me semble bien. Oui. Allez, on lit aujourd'hui, tu nous parles de Grande, d'Aurore Petit, paru aux éditions Les Fourmis Rouges.
C'est une petite fille bien dans ses baskets. Elle revendique d'être la grande petite sœur. Et elle nous présente son monde, son papa, sa maman, son doudou, son ami le chat Sylvestre. Habile et bavarde, elle sait grimper, sauter, faire du vélo, manger toute seule, dire non, ça très très bien. Dire oui, juste quand elle est obligée. Oui, oui, à 2 ans, on est très très grande. Aurore Petit a 2 enfants, un garçon et une fille. Elle a ainsi, au fil de 4 albums autobiographiques, Une maman c'est comme une maison, Bébé ventre et la petite sœur est un diplodocus, exploré la naissance, la relation mère-enfant, l'arrivée d'un 2e enfant, toujours du côté de l'enfant et toujours simplement. C'est plus difficile de le faire simple. Toujours joyeux et tendre aussi. Et cette fois, elle se penche sur sa grande petite fille de 2 ans, qu'elle observe avec humour et amour. Cette période de la vie où l'enfant gagne en indépendance, teste des gestes nouveaux, explore son monde, savoir dire non, toujours, apprendre à dire oui, revendiquer son autonomie, expérimenter la colère et avoir besoin quand même de ses parents. C'est tout cela à fois, et en même temps, un enfant de 2 ans. Et l'autrice a le chic avec des personnages très stylisés en quelques traits, des couleurs franches, d'installer une atmosphère chaleureuse, des relations tendres et de menus détails expressifs qui installent le décor de la maison, de la ville, avec une économie de moyens remarquable. Un petit format facile à manipuler, une jolie fabrication soignée, des images qui défilent en pleine page, avec des fonds de couleurs chaudes. Ah, on se sent bien avec cette gamine. Aurore Petit est née en 81 en France, elle a grandi en Haute-Savoie, elle sort diplômée des écoles des arts déco de Strasbourg, elle travaille beaucoup pour l'édition jeunesse, mais dessine aussi pour les adultes et notamment pour la presse. Elle vit à Nantes, si vous avez envie de la rencontrer.
Merci Sois-y, que tu nous parlais de Grande par Aurore Petit aux éditions Les Fourmis Rouges. On se retrouve très vite un mercredi, comme de juste dans le grand tout. À bientôt.
À bientôt, à mercredi.
La musique d'illustration de cette chronique Allez on lit numéro 63 était due à Jean-Claude Vanier, nouvel album qui va sortir en 2025, oui, sur le label américain IPCAC, celui de monsieur Mike Patton, Comme les enfants savent t'aimer. On retrouvera Sois-y Globaille bien sûr la semaine prochaine, mercredi, comme tous les mercredis dans le grand tour. Mais nous poursuivons maintenant avec la page culture de l'émission qui se poursuit donc après la chronique bouquin avec Ronan qui reçoit Arthur Nosiciel dans quelques instants. Mais un petit billet pour commencer, il me semble, Ronan.
Oui, bonjour Yann. Bonjour. Tout de même. Alors avant de commencer cet entretien et en guise de préambule, quelques mots tout de même sur le terme festival, mot dont une légende urbaine un peu pointue certes, voire pointilleuse, une légende urbaine de lexicographe, de linguiste, de philologue, mais une légende urbaine tout de même, une légende urbaine donc m'a longtemps fait croire que le mot festival était un mot valise, contraction de fête et d'été. Eh ben, pas du tout. Festival vient du mot anglais, festival, qui lui-même vient de l'ancien français, festival, issu du latin festivus, période de fête, jour de fête. Festival, un mot qui serait donc plutôt Brexit que Brexit. Et c'est au musicien Berlioz que l'on est redevable de l'avoir importé chez nous en 1840 en créant les Corégies d'Orange, le plus vieux et donc le premier festival de France. Mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, les festivals ont pullulé dans l'Hexagone, au point d'en saturer parfois quelques coins. En effet, selon l'étude SoFest, menée par France Festival depuis 5 ans, on estimerait en 2024 le nombre de festivals à 7300. Et en 2018, pardon, ça n'est pas moins 19% de la population qui déclarait avoir fréquenté ou participé à un festival. Festival, promesse de fête donc, moment fédérateur, voire moment de célébration, grand-messe autour d'un art, d'un artiste. Eh bien évidemment, Rennes n'est pas en reste, les propositions de festival se succèdent au point qu'il est difficile à certaines périodes de savoir où donner de la tête. Et bien sûr, au TNB, on fait aussi festival. Ce fut d'abord dans les années 90 émergence, puis mettre en scène, et depuis 2017, créé par Arthur Noziciel, le festival TNB. Deux semaines où, en ces temps de premier frima, on se pressera dans les multiples salles de l'agglomération pour satisfaire sa curiosité de spectateur. Du moins, en faites-vous le pari, Arthur Noziciel. Curiosité de spectateur face à la création contemporaine dans toute sa diversité. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais moi, c'est en festival, en tout cas au TNB en 94, que j'ai eu l'impression de vraiment naître spectateur, ébloui par cette représentation de chorale par le Théâtre du Radeau, emmené par le déjà regretté François Tanguy. François Tanguy, que vous aviez programmé peut-être avec une certaine préscience pour son ultime création Par autant en 2022. Une boucle s'est donc bouclée. Et c'est certainement à cette occasion que j'ai découvert que le théâtre pouvait être bien autre chose que ce que j'en pensais à l'époque, et que, pour vous plagier un peu, Arthur Noziciel, j'ai fait là la rencontre de cet autre qui est à la fois soi-même et différent. Et cependant, concernant la question du festival du théâtre, une première me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui fait vraiment festival au TNB? Qu'est-ce qui distingue la saison du festival?
Je pense que c'est un moment particulier où on sort du rythme de la saison, c'est-à-dire dans un parcours de spectateur ou de spectatrice, on va avoir une certaine régularité. Donc disons qu'on a des gens qui vont venir qu'une fois ou deux dans la saison, mais on a des gens qui vont venir 5 fois, 6 fois, 8 fois. Donc il y a cette on note dans son agenda, tel jour je vais au TNB voir tel spectacle. Et ça conditionne quand même une certaine façon de se positionner en face de l'œuvre, une certaine façon d'entrer dans la salle, une certaine façon d'attendre, une certaine façon d'être à l'écoute de ce qui va se passer. Et je pense que le festival, c'est vraiment jouer avec ses attentes et proposer aux spectateurs une expérience d'une autre nature, du spectacle vivant, dans quelque chose qui va être peut-être plus excitant, où on est dans quelque chose de plus tendu, de plus à la fois de plus pressé et de plus joyeux, c'est-à-dire voir 2 ou 3 spectacles dans la même journée ou consacrer un week-end à ça. C'est une façon de se mobiliser autrement. Donc d'un seul coup, c'est pas le spectacle se rajoute à sa journée. On a été travailler ou on est à la fac ou je sais pas, puis le soir on va voir un spectacle. D'un seul coup, on se mobilise autour du spectacle vivant. Le spectacle vivant devient d'un seul coup le gros focus de son week-end ou de sa semaine. Donc déjà, ça crée, je pense, une écoute différente, et donc une façon de recevoir les choses différemment, une autre disponibilité. Je pense qu'il y a quelque chose de la convivialité aussi, c'est-à-dire que parce que c'est le festival, les gens se parlent plus, partagent plus, on prend plus le temps d'aller au restaurant, au bar, donc il y a cette dimension aussi conviviale. Et puis il y a, au-delà de cette excitation et de cette convivialité, il y a quelque chose d'autre que j'aime bien dans le festival, c'est la possibilité de se retrouver avec plusieurs partenaires de Rennes et de la métropole, des gens qu'on peut croiser dans l'année, avec qui on s'entend bien, et puis de se dire, tiens, il y a ce moment-là où on travaille ensemble, puisque les spectacles du festival vont se jouer dans plus d'une dizaine de lieux de l'agglomération. Alors il y a le centre chorégraphique, les Champs Libres, le Grand Cordel, les Beaux-Arts, la Paillette, l'Air Libre, le Théâtre de Poche, Dédé, le Triangle. Tout ça sont des lieux avec lesquels, à ce moment-là, on peut vraiment travailler. Donc il y a aussi ce partage, en fait, cette mise en commun avec d'autres gens. Je trouve qu'à Rennes, il y a quand même y a un territoire pour ça qui est vraiment très bien, hein, c'est-à-dire plein de gens formidables qui ont des lieux tous différents, avec des identités différentes, et qui ont tous envie de collaborer. Donc cette chose qui est très rennaise, en fait, et qu'on peut ressentir, on a envie d'en profiter aussi, d'en faire profiter les gens. Et puis aussi, je trouve que ce qu'il y a de bien, ça, c'est que ça permet au public de circuler. Donc on sait qu'on a des spectateurs, mais aussi des journalistes, des programmateurs, qui grâce au festival vont découvrir d'autres lieux, d'autres endroits de Rennes et d'autres institutions. Donc je pense que ça a quelque chose d'assez vertueux aussi.
Et par exemple, est-ce qu'il y aurait un lieu un peu atypique, un peu méconnu, que vous pourriez, auquel vous pensez ?
Non, là, parce que c'est quand même des lieux, des partenaires avec lesquels on travaille depuis longtemps. Mais il y a un lieu atypique que les gens connaissent peut-être moins bien, qui est au TNB, bizarrement, qui est le Paradis, et qui est cette toute petite salle qui a été plus ou moins une salle, plus ou moins un studio d'enregistrement, une régie son, finalement, qui a été abandonnée et que j'ai récupéré, qu'on a fait refaire et qui sert à l'école et qui est un petit lieu, moi, que j'aime beaucoup. On a fait aussi des sorties de résidence avec Erenan, avec Lou Doyon. On a fait pas mal de choses, là. Et c'est un lieu qui est plutôt lié à l'école et où, d'ailleurs, les élèves, pendant leur deuxième année, vont jouer un répertoire en alternance pendant toute la saison. Il y a une trentaine de places et on est très, très proches comme ça. C'est vraiment un lieu de grande intimité pour des projets très spécifiques. Et je crois que les gens ne le connaissent pas, ou très peu pendant le festival, ou quand ils viennent voir la saison à l'école. Donc c'est tous les 3 ans en plus. Donc là, il y a le spectacle de Guillaume Vincent, Paradoxe, que les gens pourront découvrir dans ce lieu, qui est un lieu assez particulier.
Bah merci de nous proposer le Paradis pour ce festival. Alors, vous avez écrit à propos justement du festival que c'était un véritable précipité du projet artistique, du TNB j'imagine. Est-ce que vous pourriez expliquer pour qui n'est pas chimiste la notion de précipité, sans trop vous étendre bien sûr, et surtout ce que serait le projet artistique du TNB ?
En fait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques, mais je vais rester sur la question artistique. Je pense que quand j'ai pensé ce mot, c'était justement pour... parce que le précipité, c'est une énergie, c'est une transformation, c'est quelque chose qui est un peu une accélération. Donc c'est ce que je vous racontais sur ce que peut être le festival dans cette chose plus excitante, plus excitée. Je pense que, en tout cas, on n'avait pas envie d'un festival qui soit comme à part de la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la saison du TNB pour un certain type de public, et puis il y a le festival qui serait fait avec des spectacles qu'on ne pourrait pas mettre dans la saison, par exemple, et qu'on pourrait mettre que dans le festival parce que c'est un autre type de public. Donc, j'avais pas tellement envie d'entrer dans cette séparation-là. Donc ça veut dire qu'on donne la possibilité aux artistes et aux équipes de pouvoir être soit dans la saison, soit dans le festival, et ça se fait un petit peu en fonction des disponibilités, des formes, des formats, des temps de création ou de l'atmosphère ou de la vibration qu'on veut donner au festival. Et donc on a beaucoup d'artistes associés hein, au TNB, on en a 28 maintenant, on les a plus additionnés que remplacés, comme on peut faire dans d'autres théâtres. On a préféré nous les additionner, les agglomérer, et dans toutes les disciplines. Et il y a des metteurs en scène, il y a des chorégraphes, des gens qui sont plus sur la performance, les arts visuels, la musique. Il y a même un artiste associé, un cinéaste associé au cinéma, qui est Sébastien Lifshitz. On a un historien associé, Patrick Boucheron. Et donc, je dirais que l'ensemble, le projet artistique du TNB, il est pluridisciplinaire. C'est d'en faire une maison de création habitée par les artistes, où de nombreux artistes sont présents, afin d'inscrire leur travail sur la durée, et sur un territoire, de construire un public pour l'ensemble de ces artistes et de leur donner les meilleures conditions possibles de création. Et puis, en créant ce groupe, cette association d'artistes, on donne aussi une certaine forme de cohérence à la saison, c'est-à-dire, même si ce sont des artistes qui ont des formes très diverses, ils sont habités toutes et tous par des choses en commun qui ont à voir avec la nécessité, une façon de penser le monde, une façon de vouloir accueillir les spectateurs dans leur travail, une façon de déchiffrer le monde et la société en rendant compte à leur manière. Mais voilà, beaucoup sont binationaux, y a des choses qui... Je pense qu'on a aussi des gens qui sont une représentation d'un monde habitable, d'un monde dans lequel on pourrait avoir envie d'habiter, dans lequel on habite, mais qui n'est pas forcément le monde qu'on nous raconte. Et donc, c'est un peu ça que raconte cette association d'artistes. Et je dirais que cette volonté va se déployer à la fois dans les salles du TNB le long de la saison et puis pendant le temps du festival, en rendant visible à ce moment-là, des angles saillants du travail de ces artistes associés. Alors certains, c'est une création, d'autres, c'est des sorties de résidence, d'autres vont être impliqués dans des choses qui relèvent plus de la formation. Ça va être, en tout cas, accompagner au mieux le parcours d'artiste en faisant du festival un moment de visibilité un peu différent de celui de la saison pour parfois leur pas de côté. Il y a des artistes qui ont envie de travailler sur des grandes échelles et puis dans le cadre du festival, ça va être différent. D'autres, parce que ça change la nature du rapport qu'ils vont créer avec le spectateur dans le temps de la représentation. Voilà, c'est un peu à géométrie variable et je dirais que le festival est une sorte de loupe, ou on pourrait le dire autrement aussi, une loupe sur ce qu'est la saison et le TNB, ce qui est une façon de dire aux gens qui viendraient qu'au festival que les artistes qui découvrent dans le festival sont aussi des artistes qui pourraient découvrir dans la saison ou d'autres artistes du même, je dirais, de la même famille pour être dans la saison. Il y a moins de cette séparation en fait entre artistes du festival, artistes de la saison.
D'accord. Et néanmoins, une fois que la programmation du festival a été construite, est-ce que vous voyez se dessiner, comment dire, une sorte de ligne éditoriale de cette édition 2024?
Oui, mais c'est aussi un peu la ligne éditoriale de la saison qui va aussi définir celle du festival. Et donc je ne travaille pas tout seul à la programmation. La programmation est sous la responsabilité d'Anne Cuisset, qui est ma collaboratrice depuis 20 ans maintenant. On travaille déjà ensemble en compagnie, avant que je dirige un lieu. Donc on travaille ensemble avec Anne. C'est elle qui a une vision, on va dire, une vue d'avion de tous les projets qui nous intéressent, pour lesquels on nous sollicite ou que nous-mêmes nous pouvons solliciter. Donc elle a cette vue d'avion-là. Et donc on avance en même temps sur la saison et le festival, en se posant la question sur les projets qui nous intéressent, en se demandant est-ce que ça c'est plus pertinent dans le festival ou dans la saison, en deuxième ou première partie du festival. Après, il y a des questions de salle. Voilà, on a à disposition un certain nombre de plateaux. Et il y a des spectacles qu'on peut mettre dans le festival parce qu'on va trouver le lieu. Il y a d'autres spectacles qu'on ne peut pas faire parce que les lieux ne sont pas libres à ce moment-là. Ou voilà. Donc c'est un petit Rubik's Cube, en fait, où on essaye de faire émerger des lignes fortes de la saison qu'on va concentrer sur le festival. Et en y intégrant aussi d'autres paramètres qui sont la disponibilité des salles. Enfin, c'est vraiment très pragmatique. Et puis les budgets, puisque le festival du TNB n'est pas un budget spécifique. C'est-à-dire que le festival est compris dans la saison du TNB. C'est la même équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas un festival en plus du TNB où il y aurait une équipe, où il y aurait des gens qui travailleraient que pour le festival. C'est pas non plus un budget fléché sur le festival. Donc le festival s'intègre vraiment à tous les niveaux pour nous, en termes d'équipe, en termes de budget, dans le budget global du TNB. Donc on est obligé de les penser ensemble.
Donc vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a une imbrication totale entre la saison et le festival. Et on peut comprendre que la chronologie de la construction d'une saison et d'un festival est finalement à peu près la même. Néanmoins, oui. Est-ce que vous pourriez nous en identifier les principaux pivots en termes de chronologie? Comment ça se construit en fait?
Alors c'est une, deux, voire trois saisons à l'avance. Il y a des projets dont on sait qu'ils sont pour dans 2 ans. Donc on va dire, disons, un an ou deux à l'avance. On va être peut-être on suit de plus près le travail des artistes associés en voyant un peu ceux qui vont avoir une création au moment du festival, justement en se disant bah tiens, il ou elle va faire sa création au moment du festival, donc c'est peut-être bien que ce soit dans le festival. Il y a des éléments comme ça, il y a de se dire tiens, dans 2 ans on se rend compte que la saison va avoir voilà, une teneur particulière parce qu'on va vouloir mettre l'accent, par exemple, disons, bah, comme on l'a fait cette année sur la création adaptée, ou ça pourrait être sur autre chose. Donc on va reporter des projets en se disant bah, tiens, ça vaut mieux le garder pour l'année prochaine dans le cadre du festival. Voilà, c'est vraiment des allers-retours qu'on va faire avec Anne sur ces enjeux-là et en discussion aussi avec les artistes. Il y en a qui vont nous dire, moi j'aimerais bien que ce soit pour le festival, d'autres au contraire préfèrent un autre moment de la saison. On regarde aussi un petit peu les tournées des spectacles, parce que des fois on se dit c'est plutôt bien d'arriver vers la fin, c'est pas un problème, mais des fois il y a des artistes ou des projets où on préférait être dans les débuts de la tournée ou dans les premières représentations, et ça c'est plutôt les spectacles qui vont être créés ici, créés en résidence. On essaye de privilégier les créations. Donc effectivement, on va travailler un petit peu comme ça. Donc voilà, ça se fait entre des artistes qu'on a envie d'accompagner, les projets dont on nous parle, une sorte de fil rouge qu'on va pouvoir faire émerger. Vous parlez d'une ligne éditoriale, et ça me semble très juste, sur la saison. Voilà un petit peu comment ça se construit.
Tu nous rappelais les origines étymologiques de festival, Renan, tout à l'heure. Oui. Pourtant, il s'agira bien d'une fête autour du théâtre, je pense, ce festival oui. TNB. Et justement, il y aura aussi des fêtes musicales les 16 et 23 novembre avec Lisa et Marvina de DJ, dont j'ai emprunté un morceau. Voilà, j'ai emprunté un morceau d'un set de DJ Lisa. On l'écoute et on retrouve Arthur Nosiciel juste ensuite, toujours avec Renan. D'un titre du groupe Swimming Promises, Hunger for a Way Out. Peut-être le jouera-t-elle, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un morceau extrait d'un set de DJ Lisa qui sera avec DJ Marvina le 16 novembre à partir de 23h. C'est au bar du TNB. Il y aura deux belles fêtes musicales comme ça au bar du TNB les 16 et 23 novembre. Nous poursuivons cette discussion entre Renan Canal B et puis Arthur Nosiciel, directeur du TNB, metteur en scène et comédien. Et on parle du festival TNB, bien sûr, qui commence ce mercredi 13 et finira le 23 novembre.
Oui, alors une question de Taroud. Le festival TNB succède à Maître en scène, hein, qui succède lui-même à Émergence, je l'ai déjà dit. Et on peut s'étonner du nom que vous avez choisi au regard des deux précédents. Un nom, somme toute, assez neutre. Pourquoi ce choix ?
Bah justement, en arrivant à Maître en scène, me semblait réducteur dans le sens où le festival est... Alors, c'était un beau nom, hein, Maître en scène, je trouvais ça. Mais, et puis, c'était passé dans l'esprit des gens. Alors après, François Lepilouer, à qui j'ai succédé, était resté presque 24, 25 ans. Enfin, donc, c'était quelque chose qui avait vraiment marqué. Et je pensais qu'il fallait changer de nom, en fait. Parce qu'on changeait tellement radicalement d'identité, d'artiste, de proposition artistique. C'était une telle façon de l'envisager différemment qu'il fallait trouver un nom. Et je trouvais que Maître en scène envoyait trop sur l'idée du théâtre, de la mise en scène de théâtre, alors que le festival, on le voulait résolument pluridisciplinaire. Il y a du théâtre, de la danse, du cinéma, des arts plastiques, de la musique. Donc, je trouvais qu'il fallait quelque chose qui puisse indiquer que c'était un festival du TNB. Mais, et puis après, je trouve qu'il y a de plus en plus... Enfin, au moment où on est arrivé, il y avait tellement... Tout le monde trouvait des noms de plus en plus improbables à tous les festivals. Donc, plutôt de se casser la tête à essayer de faire encore des jeux de mots, trouver des trucs dans tous les sens, on s'est dit, le TNB, c'est quoi ? Ben, le TNB, c'est du théâtre, de la danse, de la musique, un cinéma, un restaurant... Et un festival, et une école, donc TNB Festival, voilà.
Ah bah très bien.
On a voulu être basique, c'est peut-être pas génial, mais bon, ça a le mérite d'être clair.
Alors au printemps dernier, vous avez évoqué une certaine incertitude liée à l'entre-deux-tours des dernières législatives, ouais. Je vous cite. Hein.
Ouais.
Et puis pour construire cette édition 2024, vous avez même parlé de renoncement. Ouais. Alors de quelle nature était cette incertitude, ces renoncements, et cette édition du Festival 2024 est-elle malgré tout conforme à celle que vous aviez projetée ?
L'incertitude maintenant va s'y installer, je pense.
Oui.
Là, on est bien installé dans l'incertitude. Mais on n'est pas, je pense, au bout de nos surprises. Et l'incertitude était politique à ce moment-là, puisqu'on était dans cette période électorale est très, très étrange. Et donc, politique, elle est devenue économique. Et économique, elle vient évidemment peser sur la question de la culture. Et les budgets, depuis 2-3 ans, sont très, très impactés. Et particulièrement cette année. Et effectivement, on ne sait pas du tout encore ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, il faut savoir que... Enfin, pour nous, ça a vraiment démarré avec la guerre en Ukraine. Hein, et qui est venu peser très fortement sur nos budgets en nous faisant perdre 30% de notre potentiel artistique. Tout ça vient peser sur les artistes, les compagnies, les intermittents, pas sur le fonctionnement du théâtre. Et donc, ça veut dire que là, le festival, c'est une édition, alors que je trouve formidable. Enfin, je veux dire, les spectacles sont hyper excitants et c'est des artistes passionnants. Mais je dirais que le festival, il y a un peu presque un tiers de spectacles en moins. Donc l'impact, il se ressent pas du point de vue du public, parce que de toute façon les gens vont pas voir 20 spectacles, mais je pense que ça va peser sur les compagnies, ça pèse sur les projets, sur les productions, sur les tournées, sur la visibilité des compagnies indépendantes et des intermittents, ça c'est évident. Et donc ça, en tout cas dans le cadre du festival et de la saison, ensemble, je veux dire, ça représente un tiers de propositions en moins. Mais néanmoins, ça n'impacte pas la qualité des propositions, au contraire.
Eh bien, haut les cœurs, ouais, justement sur cette édition, est-ce qu'il y a des aspects du festival, des focus que vous aimeriez faire ?
Oui, parce que je pense que justement mettre... un festival, on sait ce que c'est. C'est-à-dire, on va voir des spectacles, comme on va voir des concerts. Et là, on a voulu qu'à côté de la programmation, il y ait quand même des choses qui peut-être donnent une identité ou une singularité à ce festival. Alors, il y a 2-3 trucs. Il y a d'une part la présence de l'école, des élèves sortis de l'école là au mois de juin, et pour qui Pascal Rambert, l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert, écrit pour chaque promotion une nouvelle création qui s'appelle Dreamers. Donc il y a eu Dreamers 1 il y a 3 ans, là c'est Dreamers 2. Dans 3 ans, il y aura Dreamers 3 avec la prochaine promotion qui vient d'arriver. Et Dreamers, c'est vraiment donner la possibilité, non plus à ses anciens élèves, mais jeunes acteurs et actrices, d'être visibles pendant les 2 semaines du festival avec une création conçue pour eux à partir de leur propre... des échanges que Pascal Rambert a pu avoir avec eux. Et en l'occurrence, Dreamers, là, c'est une rave. Il est parti de leur rêve justement pour écrire une rave, et c'est un spectacle assez impressionnant où ces 20 jeunes artistes dansent pendant 2 heures et le spectacle, c'est comme si on rentrait dans leur tête et qu'on les entendait parler. C'est un spectacle assez impressionnant et on espère que dans 3 ans on pourra reprendre Dreamers 1, 2, 3, 60 artistes, 60 jeunes qui auraient été formés à l'école du TNB, qui ensemble raconteront ce qu'a traversé cette génération. J'encourage vraiment les gens à découvrir Dreamers 2 à Gabylie. C'est un spectacle qui est très 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 poignant. Et puis puisqu'on parle de transmission aussi, j'aime bien l'idée qu'un festival soit pas juste un moment où on vient voir des spectacles, mais aussi une opportunité pour des jeunes artistes, alors en art ou sortis d'école d'art dramatique, de pouvoir continuer leur formation auprès de grands artistes de la scène contemporaine européenne. Et donc c'est aussi, alors c'est moins visible du point de vue du public, mais il y a des workshops, il y a des masterclass, il y a la possibilité pour plein de jeunes artistes de rencontrer d'autres artistes et d'échanger avec eux, des salons d'artistes, des workshops. Et là en l'occurrence, il va y avoir une 60aine de jeunes artistes qui vont travailler avec Emmanuel Huyn, Jocelyn Cotensin, Lorraine de Sagazan, Damien Jallet. Donc voilà, il y a cette dimension-là qui est importante. Qui parle de transmission, parle de mémoire et d'histoire. C'est la présence d'un spectacle un spectacle performance où j'ai envie d'attirer l'attention des gens, parce que c'est un très beau travail de Mila Turajlik sur les archives des non-alignés, c'est-à-dire dans la période au moment de la décolonisation, elle a retrouvé des archives cinématographiques inédites qui témoignent de ce qu'a été ce mouvement des non-alignés. Et c'est une performance assez incroyable qu'elle accompagne d'un très beau documentaire. La présence aussi d'un rencontré l'histoire exceptionnelle avec l'historien Patrick Boucheron. Et puis un volet assez important dédié à la création adaptée, ce qu'on appelle la création adaptée, c'est-à-dire des créations qui vont mettre ensemble des artistes valides et non valides, handicapés, pas handicapés. Et nous, on a 4 propositions là dans le festival. Il y a Johnny Kotzen avec... Louder is not clearer. Il y a le très beau Hamlet, Teatro della Plaza, qui est une compagnie de Lima. Hamlet avec 8 interprètes trisomniques. Il y a aussi le Dédalus de Madeleine Ward, qui est une installation sonore. Et puis j'en oublie un. Sotto Bosco, voilà, de la chorégraphe italienne Chiara Bersani. Et donc ces quatre propositions, elles sont importantes. C'est important de communiquer et de rendre visible ce qui est en train de se faire, pas seulement en France, mais à l'international, puisque on a des gens dont, là, qui viennent de Lima, d'Angleterre et d'Italie, sur cet enjeu qui est aujourd'hui la création adaptée, qui est un bel enjeu, je trouve. Ça fait longtemps, nous, qu'on le fait au TNB, mais le festival nous permet justement de le rendre de plus en plus visible. Et puis je pense que les Paralympiques, là, nous aident beaucoup. Parce que même si dans l'idée, les gens aiment bien l'idée qu'on fasse ça, mais ça ne veut pas dire que le public venait forcément très nombreux. Mais là, je crois vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Et là, on le sent, le public commence vraiment à nous suivre de plus en plus là-dessus. Et puis l'enjeu, c'est vraiment de montrer des propositions artistiques qui sont exigeantes artistiquement. Le truc n'est pas de remplir une case, hein, de cocher une case. Donc c'est à l'intérieur du festival, en tout cas, ça me semble important d'attirer l'attention du public sur ces propositions.
Eh bien, merci d'avoir partagé ces points d'enthousiasme et de nous avoir accompagnés.
Merci à vous, merci
curiosité.
Pour ce temps.
C'était votre première fois sur Canal B ?
Eh bien, ouais.
Oui, bah, bienvenue dans cette console.
Je suis ravi. Merci beaucoup.
Merci Renaud, merci à Arthur Nozier.
Merci Yann.
Retrouvez toute la programmation, bien sûr, du festival sur t-n-b.fr. On poursuit dans quelques secondes avec quelques infos concerts, mais on revient un peu à ce morceau emprunté à Lisa Lisa. Vous la retrouvez avec Marvina le 16 novembre. Bon festival. C'était bien sûr cette fête musicale le 16 novembre au bar du TNB. Il y en aura une deuxième pour clôturer la deuxième semaine du festival. Ce sera le 23 novembre avec cette fois-ci DJ Sed et DJ Dupont. Dans la session info concert de l'émission Le Grand Tout, aujourd'hui, je vous encouragerai chaleureusement à aller le 24 novembre à une fin d'après-midi proposée par des Pichicailles en partenariat avec les Tombées de la Nuit et le Conservatoire de Rennes. Ce sera la soirée des Pichicailles numéro 66 où vous retrouverez Ed Dowie d'Angleterre et puis Cotts du Canada. On va écouter dans une seconde Ed Dowie qui a sorti deux albums. Des albums assez poétiques, plein d'humour aussi, et puis on l'entendra dans un instant avec sa voix fragile, et puis ses parties électroniques. Il s'accompagne de boucles générées par son ordinateur. On écoute Ed Dowie maintenant avec ce titre Red Stone. l'anglais Ed Dowie à l'instant dans Le Grand Tout, à retrouver le 24 novembre dans l'après-midi. Le concert débutera à 16h, ouverture des portes 15h30, ouverture des portes de la chapelle du conservatoire. Un concert proposé par des Pichicailles en partenariat avec les Tombées de la Nuit et le conservatoire de Rennes. Très beau moment en perspective, tout est aussi beau que ce titre qu'on écoutait à l'instant, Red Stone par Ed Dowie. Vous retrouverez aussi la canadienne Coates qui, après avoir enregistré un premier album en compagnie de Sandro Perry de la galaxie Constellation Records, un album plutôt riche en instrumentation, trompette, basse, saxophone. Là, elle donnait un EP récemment avec Olivier Fairfield, qui lui s'est occupé de la production d'enregistrement pour Timber Timbre ou Andy Schoff, par exemple. Là, on est dans des ambiances peut-être un peu plus sombres. Vous allez pouvoir entendre ce titre Moonlit Building par Coates, à retrouver donc dans ce chouette double programme du 24 novembre dans l'après-midi à la chapelle du conservatoire grâce à des Pichicailles.
Building, your light does not come from within. Workers continue to spin.
Quelques frissons devraient vous parcourir l'échine le dimanche 24 novembre. Oui, lors de ce concert d'Epichikai, 66e soirée d'Epichikai. Là, en l'occurrence, c'est l'après-midi. Concert à 16h, ouverture des portes à 15h30 au Conservatoire de Rennes à la chapelle du Conservatoire, 26 rue Hoche. Vous retrouverez Kotz, ce qu'on écoutait à l'instant, et puis Ed Dowie. Tout ça est en partenariat d'Epichikai, Les Tombées de la Nuit et le Conservatoire de Rennes. Pour terminer l'émission Le Grand Tout, aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre deux extraits des albums Découvertes Ferrarock de cette semaine. Vous retrouverez toutes les infos sur ferrarock.org autour des albums Crafted Achievement pour le groupe parisien Eggs, leur deuxième album, et puis pour l'album Demande Spéciale des Montréalais et Montréalaises de Bon Enfant. On va d'abord écouter Eggs, que vous retrouverez en interview vendredi de 18h à 19h sur Canal B, dans l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock Dig Dig Diggers. Une interview de Charles Dano, guitariste, chanteur et fondateur du groupe. Un groupe qui est à géographie et géométrie variable, surtout 7, 8, 9, 10, peut-être plus. Hein, on ne sait pas toujours combien ils seront présents sur scène en même temps. Les Eggs que vous avez peut-être vus au dernier festival Pipe à la Pop proposé par des Epichikai juste avant l'été à Rennes. Toujours très agréable de les retrouver avec leurs chansons super bien troussées. C'est pop, c'est très jangly, ça sautille de tous sens. Et on retrouve clavier, trompette, saxophone aussi pendant leurs concerts. On écoutera dans un instant le titre Angry Silence par Eggs. Et puis, juste après, vous pourrez découvrir un autre titre de Bon Enfant, le morceau R de Plastique, pour ce groupe qui nous donne ce nouvel album Demande Spéciale. Il est sorti le 18 octobre dernier sur le label du Prince. Bon Enfant, ils sont 5. C'est deux musiciens, musiciennes qui ont créé le groupe, Daphné et Guillaume, à Montréal. Et puis Étienne, Mélissa, Alex les ont rejoints pour donner quelques albums. Leur premier album avait été un des meilleurs albums francophones de l'année 2019, nommé en tout cas ainsi par le journal Le Devoir. Et là, on les écoute avec ce nouvel album, un album très léger, très frais, très pop, avec quelques petites envolées psychédéliques et autrement des moments plus calmes et plus folk. On écoutera tout à l'heure donc le morceau R de Plastique, mais pour l'instant, ça va être Eggs. Vous retrouverez juste après l'émission Le Grand Tout que vous écoutez en ce moment en direct sur Canal B, Curiosité avec Lucie, qui vous proposera aujourd'hui un retour sur le vernissage de l'ouvrage Résidence Secondaire, issu d'un projet artistique et scientifique européen avec l'âge de la tortue. Ça, c'est dans quelques 7-8 minutes, mais pour l'instant, Eggs et ensuite Bon Enfant. Nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission Le Grand Tout. Vous retrouverez playlist et réécoute de cette émission sur Canal B. .fr. Ciao.
Your voice brought me back to life. Even more than you said. And your eyes are lit up by an old TV show. You ask me why good times are going so fast. We'll be right back.
Dans mon air de plastique.